Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1. Je m'appelle Abdou Sall et bienvenue à l'épisode numéro 34. Cette semaine, à l'approche du début de saison de la Formule 1, nous allons faire un jeu de prédiction saveur bulletin F1, un jeu de réalité-fiction. Et pour ce faire, on a invité notre nouvelle recrue qu'on va vous présenter à l'instant. Il s'agit de Anna Maria Mercado. Bonjour Anna Maria.
Oui, bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien. Jusqu'à maintenant, ça va bien, il n'y a pas de problème.
Excellent. Donc Anna Maria, d'abord bienvenue avec l'équipe.
Bien, merci beaucoup de m'avoir invité à rejoindre l'équipe.
Et est-ce que tu peux te présenter au public du bulletin F1?
Oui, en fait, moi, c'est quelqu'un qui aime la Formule 1. Depuis longtemps, je suis fait les courses, pas juste la Formule 1, mais c'est ça. En résumé, un passionné, mais que depuis 4-5 années, pues yo me vi a hacer la colaboración a ver de paz por comentar un poco qué es que pasa, me del punto de un amateur.
Ah, c'est super ça, c'est vraiment super. Donc on est très content de t'avoir avec nous, puis surtout que ça va amener beaucoup de diversité dans les opinions parce que, oui, on a eu beaucoup de discussions sur la F1 avant. Et est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux?
Oui, oui, sur les réseaux sociaux, ils vont me trouver en Instagram comme Anna Maria Mercat. Et Twitter aussi, c'est Anna Maria Mercat. C'est pas difficile à me retrouver. Il n'y a pas beaucoup de fans qui font ça.
Ah oui, mais c'est bien d'avoir du monde, autant hommes, femmes, peu importe le statut qu'on porte, qui adore la Formule 1. C'est ça qui rend le sport intéressant, c'est que n'importe qui peut regarder ça sans être jugé. Donc non, je suis vraiment content de t'avoir dans ton dans notre équipe, en fait. Puis j'ai mais hâte
oui, une petite chose, c'est que c'est la première fois que je fais ça en français, en fait. J'ai appris le français au Québec, j'habite à Québec depuis longtemps, ici à Montréal, mais des fois, parler français, on a les gros accents, des fois, le monde ne comprend pas très bien, mais c'est ça.
Ah, et puis justement, maintenant que tu parles de ta première fois en français, tu as aussi un podcast, tu participes à un podcast en espagnol.
Oui, 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 j'ai mon podcast en espagnol, je participe depuis longtemps en des podcasts avec des espagnols en Espagne, mais depuis 12 ans, j'ai fait mon propre podcast, ça s'appelle Bandera Azul, mais c'est juste en espagnol.
Et on mettra le lien évidemment sur notre site web bulletinf1.com, ainsi que sur les réseaux sociaux pour ceux qui parlent espagnol, évidemment, qui voudraient avoir d'autres informations sur la F1, d'autres opinions, points de vue, mais dans une autre langue aussi. Donc, on va mettre le tout sur notre site et sur les réseaux sociaux aussi. Alors, es-tu prête pour commencer, Anna Maria?
Oui, j'ai pas le choix.
Pareil, exactement. Donc, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Alors, avant de commencer notre jeu de prédiction réalité-fiction, il faut qu'on parle d'une nouvelle qu'on a reçue un peu plus tôt ce matin, parce qu'en ce moment, on enregistre un jeudi matin, mais la nouvelle est arrivée, je pense, aux alentours de 7h, 7h15, heure du Québec. L'écurie McLaren a décidé de se retirer du Grand Prix d'Australie 2020 qui commence cette fin de semaine en raison de toute cette situation entourant la pandémie de coronavirus, puisqu'il y a un des membres d'équipe qui a été testé positif face à ce virus. Alors, l'équipe a décidé de ne pas prendre de chance et de se retirer. Alors, Évidemment, ça fait suite à toute cette escalade d'annulation et de suspension d'événements sportifs, dont la NBA qui a hier soir, ben, mercredi soir, devrais-je dire, suspendu sa saison régulière ainsi que les séries après que Rudy Gobert du Jazz de l'Utah ait été testé positif du coronavirus. Anna Maria, je voudrais avoir ton opinion sur cette question. Est-ce que le Grand Prix d'Australie cette fin de semaine devrait avoir lieu?
Qu'est-ce que je peux dire? Comme je te disais tantôt, on ne sait pas en fait quoi dire, mais c'est sûr que la priorité, c'est la santé, mais aussi c'est donc à les autorités australiennes de prendre la décision, parce que c'est eux qui organisent les Grands Prix et la FIA, il doit se plier à la décision prise pour l'organisation. Jusqu'à maintenant, l'organisation était claire d'aller à l'avance des Grands Prix et ils ont pris des précautions de pas approcher trop les pilotes, les publics. Et mon point de vue, c'est que c'est mieux quand tu fais un événement comme ça. C'est mieux quand c'est organisé. Et déjà organisé, ils ont pris des précautions, ils ont fait des recommandations au public. Le public y est prêt à aller. En plus, ils ont donné à peu près 4 000 billets. Ils ont donné beaucoup de billets à tout le monde qui a passé les mois de janvier, à temps de feu. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à côté de ça. Fait que dans ce moment-là, l'annulation, je pense que parce qu'une équipe y a pris la décision de ne pas participer, ça devrait pas se prendre à la légère, mais il faut une décision plus claire. C'est pas juste parce que l'équipe a dit qu'ils ne vont pas participer, parce que, regarde, c'est pas le même cas, mais Indianapolis 2005, il y avait 7 équipes qui ont pas pris le départ pour question de sécurité, mais quand même la course y était faite. Mais maintenant en Australie, il y a plein de monde qui est prêt à y aller. Il est prêt à y aller, il est prêt à participer. Et c'est les autorités qui contrôlent la situation. Mais je vois pas pourquoi si les autorités australiennes sont prêtes à aller de l'avance, les équipes doivent dire non.
Ben, moi, personnellement, je trouve justement que la F1, exactement, aurait dû prendre la décision bien en avance, compte tenu de la situation, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui évolue de jour en jour. Mais moi, je pense que là-dessus, là, et je viens de lire que en fin de semaine, justement, là, il y a la première course de la saison en IndyCar, puis il vient de, je pense. Le maire de Saint-Pétersbourg, là où a lieu la course, vient de dire qu'il n'y a aucune admission générale. Donc, ce sont des décisions qui sont prises à la dernière minute parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça se peut. Mais dans le cas de la Formule 1, c'est un championnat du monde. Ils ont déjà pris la décision de ne pas aller en Chine et probablement pas au Vietnam. En Australie, là où justement il y a un cas qui vient de se produire, moi, je trouve qu'ils ont un peu niaisé dans cette situation. Donc, maintenant qu'il y a une écurie qui, bon, même si elle est arrivée, que la situation s'est produite, devrait agir en conséquence. Et peut-être ne pas attendre que, justement, avec 300 000 personnes sur 4 jours, 300 000 personnes sur 4 jours, c'est quand même beaucoup, là. Donc, il faudrait ils auraient dû prendre l'avance sur les autres et dire, bon, pour l'instant, on n'y va pas, on met ça soit à huis clos comme au Bahreïn, ou tout simplement ne pas y aller. Moi, je pense que la F1 est en train de niaiser avec cette situation.
Mais il y a une petite chose qu'il ne faut pas oublier. Et derrière tout ça, il y a des contrats qui sont signés. Il y a des contrats, ils personne, ils vous perdent l'argent. Mais en Chine, il était annulé, mais la FIA, il a attendu jusqu'à ce que les autorités chinoises annulent. Parce que c'est lui qui annule, c'est lui qui va prendre les risques. Fait que en Australie, mais la Formule 1 comme telle, Liberty, la FIA, il ne peut pas prendre des décisions tout seul parce que il faut avoir clair que pour avoir un grand prix, les pays, il y a beaucoup d'argent qui est payé pour ça. Fait que, il y a des compromis. C'est sûr que c'est une situation spéciale, mais je pense que la FIA, Liberty, ils vont pas annuler, mais si les pays autres, ils prennent pas la décision avant. Parce que Bahreïn, ils ont pris la décision à faire la course à sin public, mais c'est pas la FIA qui a pris la décision. C'est le circuit qui a pris la décision. Et jusqu'à maintenant, même Formule 1, il n'y a rien dit. Il n'y a rien dit. Il n'y a pas lancé d'opinion. Liberty, il n'y a pas lancé d'opinion. Ils ont comme fermé. Ils font pas d'opinion sur ça.
Ouais. Et c'est un bon point que tu amènes concernant les contrats parce que c'est quelque chose qui est très, très, très touché, je te dirais. Parce que des contrats, ça vaut énormément de millions. Et c'est
Il y a
sûr.
plus, il y
Oui,
a
vas-y.
plus les droits de télé aussi, hein. Il faut pas oublier qu'il y a des droits de télé qui sont payés des réseaux.
C'est. Pardon, c'est vrai, exactement aussi. C'est pour ça aussi que, en autant que je pense que la F1 niaise, je comprends aussi la situation concernant les contrats, les droits télé, parce que, pardon, ce sont des millions perdus. Mais je me demande en même temps si on pourrait pas faire une exception. Je sais que c'est très utopique comme proposition, mais. De tout geler, de dire comme si de rien n'était. Ce serait. Mais c'est vrai que ce serait très, très compliqué.
Oui, c'est quelque chose de très compliqué. Même maintenant, même si McLaren a dit qu'il participe pas, c'est juste qu'ils vont prendre le risque que si la course y a lieu, ils vont pas avoir des points. Ils vont faire comme si ils n'avaient pas participé, c'est sûr. Ils vont pas avoir d'indemnité pour partie de la FIA pour ça. C'est ça ce qui va se passer. Comme c'était à Indianapolis, les équipes qui ont pas couru, c'est juste qu'ils n'ont pas eu des points, ils n'ont pas eu rien. C'est une course perdue, mais c'est sûr, personne ne me parle de l'argent et McLaren se retire. Jusqu'à maintenant, je pensais que c'était Ferrari le premier d'avoir un cas positif ou quelque chose parce que c'est le point rouge de Maranello que ça commençait en Italie.
Oui.
Mais por parte de la escudería, ça va. Y yo pienso que si van de l'avance, Ferrari y se retire pas. Y si Ferrari se retire pas, pues Mercedes va pas se retirer non plus.
C'est vrai. Puis j'ai trouvé aussi sur les réseaux sociaux, ben, il y a une petite précision aussi parce que Ross Brown, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, avait dit ceci que. Une course peut être annulée si une équipe n'est pas capable de se rendre sur place. Et non pas si l'équipe est sur place et que la situation de coronavirus affecte un des membres d'une équipe de la Formule 1. Et le règlement le dit clairement aussi. Et si jamais il y a un minimum de 12 voitures prêtes pour un Grand Prix, il peut y avoir un départ. Donc, ça aussi, c'est ce qui joue peut-être en la faveur de la Formule 1, de la FOM et tout, parce que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas des écuries qui se désistent, tant qu'il n'y a pas un minimum, ben, tant qu'il n'y a pas 12 voitures et plus qui sont sur la grille de départ, il y aura un départ. Il y aura une course en Australie. Donc ça aussi, c'est ce qui risque de peser la balance aussi.
Sí, exactement. Y jusqu'à maintenant, la FIA, ils prennent pas de décision. Parce que la dernière information qui était donnée, c'est qu'ils attendent. Ils surveillent la situation. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas prendre la décision d'annuler Sí, la organización del Grand Prix de Australie iba de l'avance. Y depuis ce que j'ai vu depuis le soir, parce que là-bas c'est le matin, ici c'est la nuit, dans les Twitter des Grand Prix d'Australie, ils font comme de rien. Ils suivent les événements, ils présentent des personnages. Il y avait Robin Williams, il y avait Barrichello, mais ils sont, je pense qu'ils ne sont pas prêts pour annuler.
Non, mais en plus ils ont donné, justement ils ont même donné des, ils ont donné des conseils sur comment bien se protéger évidemment, toutes les questions de sécurité, ce que personnellement je trouve on devrait apprendre, on apprend depuis l'âge, depuis un très jeune âge, mais c'est juste c'est parce que ce sont des standards qui ont été oubliés au fil des ans, ben ou même encore maintenant là, mais c'est bien qu'il le fasse aussi. En attendant la réponse du département de santé publique australien et de l'État de Victoria aussi. Donc, ça, c'est une situation qu'on va suivre en long et en large, parce que peut-être qu'il y aura un Grand Prix, peut-être que ce sera à huis clos, ou bien tout simplement que la prochaine course sera la semaine prochaine au Bahreïn, ou bien même dans 2 mois, tout dépendamment de ce qui se passe. Donc, ça,
Au
évidemment.
Canada.
Ah ouais, aussi, au
Au
Canada.
Canada, parce que ici, il n'y a rien annulé, il n'y a rien d'annulé et les frontières ils sont ouvertes.
Bon.
Encore, il y a des avions de Chine qui arrivent, comme si de rien.
Ouais, aussi. Donc, écoute, si la saison débutait au Canada, ce serait bien. La première course de la saison de Formule 1 au Canada, ce serait bien. Mais évidemment, c'est une situation qu'on va suivre de tout près. Donc, voilà, c'est ce qui complète le segment coronavirus. Maintenant, on va passer maintenant au jeu de prédiction que j'ai concocté, en fait, qui s'appelle Réalité et Fiction. Donc, comment ça va fonctionner, Réalité ou Fiction? J'ai 15 questions, ben, 15 questions, on va dire, 15 affirmations et chacun d'entre nous va dire si c'est une réalité ou fiction et va expliquer pourquoi. Donc, c'est assez simple. J'espère que je ne vous ai pas perdu en longueur de chemin, mais vous allez comprendre un peu. Donc, es-tu prête, Amna Maria?
Oui, je suis prêt.
Excellent. Donc, on va commencer par une facile. Lewis Hamilton dépassera la marque de 91 victoires à Silverstone. Parce qu'il faut expliquer, Lewis Hamilton compte 84 victoires, se retrouve au deuxième rang des plus grands nombres de victoires, un record que Michael Schumacher détient depuis maintenant 2006. Et Hamilton, avec la Mercedes qu'elle a, semble être plus prête que jamais. Alors, Anna Maria, réalité ou fiction?
Fiction.
Fiction, oh.
Oui, mais parce qu'il y a des courses annulées, peut-être Vietnam, Chine, et on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient avec Ferrari.
Ah, oui aussi. Donc, oui, non, c'est vrai, c'est un très bon point aussi, là. Donc, si jamais il y a des courses annulées, puis aussi, on sait jamais ce qui va se passer aussi. Concernant la tenue de la course chez Mercedes, est-ce qu'ils vont avoir un bon début de saison?
Est-ce que Ferrari va lâcher le plein potentiel?
Ah oh, oui! Ouais, s'ils font pas du sandbagging aussi, là, comme ce que Mercedes prétend faire aussi, là, depuis l'année passée. Donc, oui, moi, je pense, honnêtement, que ce sera une réalité. Bon, admettons que la course, il n'y a pas de course annulée. Moi, je vois Mercedes débuter la saison en Lyon. Je pense que c'est une équipe qui est très bien préparée. Je sais il y a eu quelques problèmes de fiabilité avec le moteur, mais qui ont sûrement été réparés. Moi, je pense que Hamilton est même mieux préparé que jamais. Il sait ce qu'il attend. Donc, moi, je pense que d'ici peut-être même le Grand Prix de Grande-Bretagne, admettant que, par exemple, Ferrari gagne à Montréal, que Red Bull joue les troubles faits à Monaco, par exemple, Hamilton devrait arriver avec peut-être sa 8e victoire de la saison à Silverstone. Moi, c'est ce que je vois personnellement. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter?
Non, c'est correct.
Excellent. Donc, deuxième affirmation. D'ici le Grand Prix d'Autriche, Red Bull aura remporté au moins une victoire en 2020. Parce que l'année passée, au Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen a remporté la première victoire de la saison de Red Bull et s'en est suivi deux autres victoires en Allemagne et au Brésil. Avec les essais pré-saison qui ont eu lieu, on a vu que Red Bull avait une meilleure voiture que Ferrari et certains pensent qu'elle serait beaucoup plus proche de Mercedes que ce que Ferrari a été. Alors je me dis, est-ce que Red Bull va remporter au moins une victoire avant le Grand Prix d'Autriche? Réalité ou fiction, Anna Maria?
Oui, je pense que c'est une réalité. Ils ont travaillé très bien, ils ont une bonne voiture. Ici, Honda avait l'unité de potence, ils avançaient un petit peu. Ils ont démontré l'année passée qu'ils sont capables. Il y avait moins de potentiel, moins des attentes, mais je pense que cette année, oui, comme tu l'as dit, ils sont plus proches de Mercedes maintenant de qui ont montré au test qu'est-ce qui était Ferrari. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont montrer Ferrari, mais ils sont proches.
Oui, effectivement. Moi aussi, je pense que ce sera une réalité parce qu'il y a la voiture, mais il y a aussi le pilote. Je dirais bien même les pilotes, parce que si on s'entend que Max Verstappen, depuis un an et demi ou deux, là, commence à devenir, à montrer le potentiel qu'on voit en lui. Il est constant, il est rapide, il ne fait plus d'erreurs bêtes. Donc, s'il continue sur la même forme qu'il avait à partir du Grand Prix d'Autriche, moi, je pense que il y aura peut-être même deux victoires pour Red Bull avant d'arriver en Autriche. Pour ce qui est d'Alex Albon, je ne pense pas qu'il est encore proche de remporter son premier Grand Prix, même si on y est passé proche de monter sur le podium au Brésil. Mais moi, je pense que Red Bull a une paire de pilotes qui est capable de faire la job, surtout en Verstappen. Et je pense que, comme tu l'as dit, avec le moteur Honda, je pense qu'ils sont rendus maintenant à un autre niveau. Donc, moi, je les vois vraiment se rendre sur la plus haute marche du podium au moins deux fois cette saison avant le Grand Prix d'Autriche. Ou, je ne sais pas, ça reste à voir.
Oui, c'est possible. Il ne faut pas oublier que Alex Albon, avec lui, Verstappen, il peut avoir un allié. Il y a quelqu'un qui est proche toujours de lui. C'est pas Gasly qui était dans autre équipe en même temps. C'était Verstappen qui allait à l'avant tout le temps. Mais Albon il a démontré qu'il peut aider l'équipe plus que ce qu'il faisait Gasly quand il était là.
Ouais, parce que c'est vrai que Gasly manquait beaucoup de confiance en soi dans la première moitié de saison. Donc, moi, je pense qu'avec ce que Albon nous a montré de Belgique jusqu'à Abu Dhabi, je pense que Red Bull pourra avoir un meilleur duo de pilotes que ce qu'on a vu en 2019. Donc, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que Red Bull va gagner au moins une victoire en 2020 avant le Grand Prix d'Autriche. Troisième affirmation, comme en Hongrie 2019 et à Monaco, on aura droit à un beau duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans au moins un Grand Prix en 2020. Parce que, comme je l'ai mentionné, Monaco et Hongrie, l'année passée, on a vu un beau duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Personnellement, j'ai adoré celui au Grand Prix d'Hongrie où on a vu Hamilton vraiment pousser à fond pour battre Max Verstappen qui était en pole position. Alors, moi, je m'attends à ce moi, on s'attend tous à ce que on assiste à un duel entre deux, en fait, entre les deux meilleurs pilotes du plateau en 2020. Réalité ou fiction, Anna Maria?
Oui, c'est toute la réalité. Peut-être on va avoir un duel avant qu'est-ce qu'on croit parce que Red Bull il vient un peu pompé cette année parce qu'ils ont retrouvé la confiance qu'il n'y avait pas l'année passée parce qu'il n'était pas sûr qu'est-ce qui s'en venait avec son nouvelle unité de potence. Mais c'est sûr qu'ils vont c'est plus sûr qu'il les fasse Verstappen et Hamilton, à qu'il les fasse Vettel et Hamilton.
Oui, exactement. Et je pense que exactement ce que tu dis avec le moteur Honda, la constance de Verstappen, moi aussi je dis réalité. Est-ce que ce sera encore au Grand Prix d'Hongrie? Je l'espère. Mais je pense que ça va être peut-être même tout au long de la saison parce que Verstappen essaie de rentrer mentalement dans la tête de Lewis Hamilton avec des déclarations choc. Encore faut-il que ça se produise en piste et on sait que Verstappen a le potentiel de faire ça. Maintenant, sans faire d'erreurs bêtes et stupides comme, bon, c'est des erreurs de jeunesse, comme c'était une recrue et tout, là. Donc, je pense qu'il a pris de la maturité. Donc, moi, je m'attends à voir un beau duel cette saison entre les deux meilleurs pilotes du plateau.
Oui, Max, il a eu la maturité et Hamilton, il a perdu l'habitude.
Ah, surtout avec ses
Il
pneus, là.
a perdu l'habitude parce que lui était en avant tout le temps, fait qu'il était pas contrarié de se battre en fait avec quelqu'un, au moins que c'était son coéquipier.
Ouais, maintenant, on s'entend que Bottas n'est pas Rosberg, même si il est un peu plus meilleur, mais à l'extérieur, qui d'autre a été capable de rivaliser constamment? Il y a eu Vettel, oui, mais Vettel commettait des erreurs. Là, Verstappen semble être maintenant celui qui va se rapprocher, qui va être en mesure de détrôner Lewis Hamilton. Ça reste à voir, mais moi je suis super confiant de voir cela en 2020. Ça, j'aime bien beaucoup ce point. Ferrari réussira, pardon, à bien gérer ses stratégies de course. Parce que l'année passée, ça a été catastrophique en matière de stratégie de course. Il y a eu des désaccords entre Leclerc, Vettel et Leclerc pour savoir quelle était la bonne stratégie. Il y a eu des consignes d'équipe qui étaient très floues. Alors, est-ce qu'en 2020, ça va être mieux? Réalité ou fiction?
C'est pas. Mais je suis sceptique. Je le prends pour fiction. Pourquoi? Parce que ils ont vu que la année, mais por la gestion des médias, mais pas tant que les stratèges soient les mêmes, je ne vois pas pourquoi ça va changer. Non, je ne sais pas. Il faut qu'ils le démontrent. Pendant la course, l'année passée, il était pénible, il était pénible, les stratèges, il a rien fait. À la fin, c'est Vettel qui a pris le rôle de stratège, à la fin, il s'est donné de meilleurs résultats. Ferrari, je ne sais pas s'il ne change pas la politique, s'il ne change pas les stratèges, mais je ne vois pas pourquoi les résultats vont changer.
Ouais, moi aussi. Moi, je vais aller dans fiction parce que je vois mal Ferrari, surtout avec la voiture. On ne sait pas quel est le vrai potentiel de sa voiture. Est-ce que c'est la troisième meilleure écurie du plateau? Mais admettons que tiens, ça tombe sur leur jour, il y a un doublé. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont. Ils vont dire, bon, ils vont prendre la bonne décision. Est-ce qu'ils vont être plus. Est-ce qu'ils vont être beaucoup plus conscients de ce qui s'est passé? On ne le sait pas parce que Ferrari, ça peut être une boîte à surprises. Puis parfois, moi, je dis, cette écurie, parfois, elle est têtue. Elle est têtue. Donc, et surtout avec un Charles Leclerc qui est prolongée à long terme et Vettel qui est en fin de contrat. Peut-être qu'il y a pour les deux, il y a deux enjeux différents. Donc, au lieu de faire tout ça individuellement, il va falloir travailler collectivement. Donc, peut-être que ce ne sera pas le cas pour Ferrari.
Non, il faut voir, parce que la seule option de Ferrari, c'est travailler ensemble, ce qui s'est passé pas l'année passée. Ils ont travaillé chacun pour son compte et ils ont laissé les pilotes faire n'importe quoi aussi. Et c'est sûr qu'on n'aime pas les autres d'équipe, mais ils ont perdu des courses. Ils se sont sortis les deux ensemble. Et chacun il faisait ce qu'il voulait. Ils ont oublié Hamilton. Ils ont oublié. L'année passée, c'était parfait pour essayer de gagner. Mais ils ont oublié complètement Mercedes. Ils se battaient entre eux-mêmes dans l'équipe.
Oh oui, puis en plus, le meilleur exemple, justement, ça a été en Russie. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'abandon de Vettel, mais il y a Vettel qui passe Leclerc, il y a la voiture de sécurité, il y a Vettel qui dit, que Leclerc vienne me chercher pour qu'on puisse échanger les positions. Donc, ça a créé un maudit bordel pour citer
Mais
Marie-Chantal Toupin.
oui, c'est pas juste ça, c'est aussi les déclarations des pilotes. Vettel, il a tenu comme un petit pouce à bouche, mais dans la course, il se laissait pas faire. Mais il faut comprendre que lui était 4 fois champion. Il faut comprendre son position, il va pas redonner sa place comme ça. Mais Leclerc était très critique. À chaque fois qu'il parlait aux médias, il était très critique en face de l'équipe. Il était jamais sa faute. Et je vais faire qu'est-ce que je veux. J'ai le droit d'aller à l'avance. J'ai le droit de me battre. Mais oui, c'est ça. Ils ont trop donné de liberté. Et c'était pas l'habitude. On parle à huis clos, comme le fait Mercedes. Toto Wolff, ils contrôlent tout le monde. Si se passe quelque chose, ils vont parler ensemble, ils vont chercher la solution, mais on ne retrouve pas de plaintes hors de l'équipe.
C'est ça. Et justement, j'espère que, justement, avec tout ce que tu dis, Ferrari va apprendre de leurs erreurs. Parce que si ça continue comme ça, ben, écoute, ça se peut même qu'à un moment donné, Racing Point devienne la troisième meilleure équipe du championnat. Parce qu'ils ont tellement bousillé des opportunités que les autres ont su en profiter. Donc, moi, je me vois mal voir Ferrari améliorer leur statut, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis fiction. Puis je pense qu'on est même d'accord tous les deux dans cette
Oui,
situation.
on est bien d'accord avec ça.
Oh oui. Cinquième point. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Alex Albon aura une meilleure première moitié de saison avec Red Bull que Pierre Gasly. Parce que, bon, Albon est arrivé avec Red Bull lors du Grand Prix de Belgique, en échange de Pierre Gasly qui est retourné avec Toro Rosso. Donc, Gasly, l'année dernière, n'a pas connu de bons Grands Prix, a même malheureusement eu deux accidents lors des essais hivernaux en 2019. Son meilleur résultat, je pense, c'était une cinquième place à Monaco, mais dans une course où il était seul au monde. Et là, avec ce qu'on a vu, Albon était dans une course pour le podium au Brésil, avant d'être accroché par Lewis Hamilton. Donc, réalité ou fiction, Albon aura une meilleure première moitié de saison avec Red Bull que Gasly l'année passée.
Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais l'année passée, quand lui a commencé avec Red Bull, il y avait des meilleurs résultats que ce qu'il avait fait Gasly dans toute la première moitié de la saison.
Ah, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi aussi. Donc, réalité, je pense que Albon a prouvé qu'il peut être solide. Et en plus, l'année passée, c'était sa première saison en Formule 1. Il n'avait pas roulé avant le mois de février 2019, pardon. Puis, il s'est comporté comme une vraie bonne recrue. Puis, il a fait un peu mal paraître Gasly avec Red Bull. Donc, moi, je m'attends à ce que ça continue encore cette année. Donc, moi,
Oui, c'est réalité, c'est sûr que Albon il va donner de bons résultats. Il a démontré ça, il fait bien les choses.
Oui, donc je pense que là-dessus, on est encore une fois d'accord dans ce point-là. Point numéro 6. Sergio Pérez de Racing Point inscrira deux podiums cette saison. Deux podiums, on va dire. On ne sait pas si c'est minimum ou maximum, mais ce sera deux podiums. Parce que Racing Point est arrivé avec avec un châssis, la RP20, similaire à la W10, le châssis victorieux de Mercedes l'année passée, et a montré de très très bons résultats lors des essais. S'est montré rapide et fiable, et on sait tous à quel point Perez est capable d'être opportuniste. C'est quelqu'un qui a le talent pour bien gérer les pneus. Donc, si jamais la Racing Point continue, ben, si la Racing Point est ce qu'elle a montré lors des essais, peut-être que Perez va monter deux fois sur le podium. Réalité ou fiction?
Et je suis sceptique, mais on va dire que peut-être oui, réalité, c'est possible, c'est sûr. C'est pas que c'est pas possible, ils ont démontré qu'ils ont fait un bon travail dans la voiture. Et la seule chose, peut-être est trop aussi pour nous surprendre. Et pour nous surprendre, parce que oui, Pérez est capable, on sait qu'il s'est profité, mais. La seule chose, c'est que l'année passée, on a vu, oui, Stroll, il y a de la difficulté en qualification, mais c'est un pilote qui était mieux dans la course que Pérez. Même si Pérez il était à l'avance, mais lui, il a fait mieux la remontée, il tenait mieux la voiture, il roulait plus longtemps, il des fois, il faisait qu'un seul arrêt. Et c'est ça qui lui fait aller un peu à l'avance. Mais je pense que Pérez est bien capable.
Oh oui, moi je pense aussi, pardon, réalité pour moi du côté de Perez. Je dis pas nécessairement que ce sera des courses à forte attrition comme on l'a vu peut-être au Brésil ou en Allemagne. Moi je pense que ça pourrait même être lorsque la voiture sera bien structurée dans une course où comme on l'a vu par exemple, si je me souviens bien. Dans le temps où s'appelait Force India en 2009, lorsque Giancarlo Fisichella a obtenu la pole position et est monté sur le podium ensuite, la voiture était bien réglée et tout. Peut-être que ce sera encore le cas dans l'ère Racing Point. Donc, moi, je vois, en plus, avec un pilote comme Pérez, comme j'ai dit, très opportuniste, très, très bon avec les pneus. Donc, lorsque tout va bien, Perez est capable du meilleur. Et comme tu l'as dit, peut-être que Stroll pourrait nous surprendre aussi, hein? Moi, je le vois pas sur le podium, mais il pourrait afficher de bons résultats et prouver que la Racing Point est une voiture excellente. Donc, moi, je me dis.
Il peut prouver que la Racing Point est une voiture à l'altitude, mais lui aussi, il peut prouver qu'il est capable avec les bons autos. Pourquoi? Parce que oui, il est très critiqué et tout, mais il n'y a pas eu de bonne voiture jusqu'à maintenant. Il a commencé avec Williams. Et quand il y avait la Williams, les premières années, quand même, il a fait un podium. Il était là. Il était là. Le monde dit oui, c'est une loterie, mais oui, il était là. Mais aussi l'année passée, en Allemagne, il y a beaucoup de sautes qui se sont sorties, il y a beaucoup de crash, mais lui, il était là.
C'est ça, c'est ça. Donc, c'est comme on dit, il faut savoir créer sa chance. Donc, Perez et Stroll sont deux pilotes qui sont capables d'être prudents. C'est sûr que, bon, Perez Justement, dans le cas du premier podium de Stroll, c'est parce qu'il y a eu un accrochage avec son coéquipier. Mais en temps normal, Perez est quelqu'un qui sait trouver l'opportunité. Donc, moi, je ne comprends pas les gens qui disent: Ah oh, oui, mais oh, il a été chanceux et tout. Mais il y en a qui sont chanceux, mais qui sont capables de ruiner leurs occasions.
Oui.
Je vise personne qui était dans l'alignement en Formule 1 en 2019 en passant.
Non,
Donc.
non, non, il n'y a personne. On ne signale pas personne, mais je dis, pour avoir la chance, il faut être là.
C'est
Si
ça.
n'était pas là, et si on était plus loin que ça, il n'y a pas de podium.
Oh non, c'est clair. Moi, je pense que moi, je vois Racing Point sur le podium, surtout grâce à Perez. Je trouve pour amener des points très importants pour l'équipe aussi. Et justement, c'est le point que je veux amener. Lance Stroll atteindra la Q3 à plus de deux reprises cette saison. Parce que Stroll, son point faible, on s'entend tous, ce sont les qualifications, parce qu'il a été éliminé à plusieurs reprises en Q1. Il a atteint, je pense, la Q3 en Azerbaïdjan et en Italie.
Oui, l'année passée, il y a aussi une fois
Ouais.
aller à Q3, mais il me rappelle pas la course, mais il y a une seule fois. Mais les premières années, oui, mais c'est que Stroll, quand il y a de l'eau, ça va très bien.
Oui, il était très bon, hein. Il est très bon sous la pluie aussi. Donc, il s'est rendu en Q3 à Monza sous la pluie. Il s'est qualifié quatrième, parti deuxième aussi. Donc, réalité ou fiction, Lance Stroll va atteindre la Q3 à plus de deux reprises cette saison, outre, bien évidemment, Monza et Bakou.
En réalité, j'espère qu'il va avoir des grands prix avec de la pluie. Pourquoi? Parce que ça va mieux en qualif pour lui.
Ah oui.
Mais oui, le meilleur chrono en Espagne que lui a fait, c'est parce qu'il était mouillé. Dans l'été cette année, il était surpris. Il dit, mais oui, est trop, il vole, mais oui, il est mouillé, c'est ça.
Moi, personnellement, je vois Stroll. Je sais pas. Parce que j'ai suivi aussi les essais, même si j'étais au travail, mais j'ai regardé un peu le rythme. Je vois Stroll en Q3 à deux reprises. Pas à plus de deux reprises, mais au moins deux reprises. Mais pas à plus, mais à deux reprises. Deux reprises, là où justement il risque d'avoir de la pluie, ou bien même à Monza ou à Bakou. Mais moi, je le vois plus arriver en Q2. Parce que je pense que il y a une lég... je vois peut-être qu'il y a une légère amélioration sur son rythme en qualification sur des tours rapides, mais je ne le vois pas avoir une grosse progression en termes de qualification. Donc moi, je sais pas. J'hésite à mettre réalité ou fiction là-dessus personnellement, parce que Stroll, ça peut être, il peut être surprenant, mais il peut être prévisible aussi. En termes de
En
rythme
termes de
rapide.
qualif,
Oui, exactement. Donc,
en termes de qualif, mais je mets mon corps aussi.
ouais. Donc, moi, je sais pas. Je suis entre les deux pour le moment. Je sais pas. C'est un point que j'ai amené, mais j'ai pas la réponse. Parce que je sais que le point fort de Stroll, c'est sa course, c'est son rythme de course. Mais il s'est souvent placé dans des situations très très bonnes, mais en qualification, ça a été très difficile. Donc, pour moi, je pense qu'il va atteindre à deux reprises cette saison la Q3. Pas plus. Juste deux.
Pour moi, la réalité, parce que, regarde, il faut. C'est juste parce qu'il faut que lui, il vaille à l'avance, il faut qu'il réussisse la qualif, parce qu'il ne peut pas rester tout le temps derrière.
Ouais, exactement, c'est ça, parce que
Oui, il y a à peu près, c'est la quatrième année, mais Il faut qu'il réussisse la qualif, parce que si lui a réussi à se mettre au moins à coup 2, à coup 2, à coup 3, ça va aller mieux. C'est pas comme toujours sortir derrière.
C'est ça, parce que oui, il gagne des positions. Il gagne beaucoup de positions, mais c'est parce qu'il part en arrière. Au moins, il a réussi ses départs. C'est ça le plus important. Mais si tu veux maximiser tes chances de marquer de gros points, ben, qu'il améliore son rendement en qualification. Donc, qu'il le fasse à partir du Grand Prix, ben, du premier Grand Prix de la saison. Et ensuite, on jugera ce que si il y a eu vraiment une progression. Donc, ça, c'est à voir avec le cas de Lance Stroll. Point numéro 8. Celui-là, j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus, là, parce qu'on en a beaucoup parlé via messagerie texte. Fernando Alonso annoncera qu'il entamera officiellement des démarches pour revenir en Formule 1 en 2021. Parce
Fiction, fiction, fiction.
Je peux m'expliquer.
Fiction. Tu peux finir ta phrase, mais c'est fiction.
Ah, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais oui, parce que Alonso n'est pas n'a plus de projet avec l'écurie F1 de McLaren, mais il va participer aux 500 000 d'Indianapolis avec l'équipe Arrow Smith-Peterson McLaren, l'équipe avec qui il a fait fusion. Donc, il va être la troisième. Il va tenter de se qualifier avec la troisième voiture de cette écurie. Mais là, on ne sait pas. Et il parle beaucoup de revenir en Formule 1, qu'une écurie voudrait qu'on le signe pour 2021. Alors, je connais déjà ta réponse. Ben, tu l'as déjà dit, ta réponse, Anna-Maria, mais moi, j'ai vraiment hâte de t'entendre sur le pourquoi.
Mais parce que c'est bon maintenir l'opinion publique, les rumeurs, ça c'est bon, ça fait des nouvelles à chaque jour. Quand le monde y parle de Fernando, il y a toujours quelque chose de spécial, je ne sais pas, il faut qu'on clique là-dedans pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est fiction. Pourquoi? Parce que il y a aucune équipe qui est prête pour l'appeler. Et Ferrari, il pense pas à Fernando. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé Leclerc jusqu'à 2024. Et Mercedes, il appelle pas Ferrari parce que appelle pas Fernando parce qu'il y a un passé avec McLaren. Il sait Mercedes qu'il y avait la unité de potence. Ils ont pas bien pris ça. Mais il se va pas faire appeler. Après ça, qu'est-ce qui reste? Red Bull. Red Bull, non, Red Bull, il appelle toujours ses pilotes, il y a Max Verstappen, il y a ses pilotes à où, et ils sont pas prêts non plus à payer pour ce qu'il demande Fernando. C'est ça le problème. Et Fernando, il dit, lui, il coûte, et il va pas aller pour moins d'argent qu'est-ce qu'il demande, parce que lui, il dit que c'est ça, il le vale. Mais les équipes, ils sont pas prêts à l'embaucher. Ils sont qu'ils sont prêts à l'embaucher, mais c'est sûr que William il va dire non à Fernando. Mais ils vont pas payer qu'est-ce qu'ils demandent. Ils ont pas non plus la voiture que lui, il veut gagner, il veut rester, il veut s'amuser, il veut une voiture performante qui le fait gagner des courses, mais il n'y a pas ça non plus. Et à McLaren, non plus, il n'y a pas. Ils ont déjà coupé avec lui, il se retrouve en haro. Pourquoi? Parce que ça n'a pas marché avec Andretti. C'est juste pour ça. C'est pas parce que c'était son premier choix ou c'est parce qu'il a pensé. Même si lui il le dit, c'est pas vrai. Lui, il était prêt à s'engager avec Andretti. Tout était prêt. À la fin, tout était bloqué. Ça n'a pas marché. Et lui, il voulait courir. Fait que c'est ça. La seule voiture qui restait pour lui, a indiqué qu'il était prêt à s'engager avec lui, c'était Haro. C'est juste ça. Mais je pense pas que lui va revenir à la Formule 1. Il y a plusieurs éléments. Il n'y a pas l'équipe, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas non plus l'argent des équipes pour les contrater non plus. En plus, il y a beaucoup de pilotes, de nouveaux pilotes qui s'en viennent. Et Fernando, il va avoir 40 ans. Fait que c'est Kimi, le seul vieux messieurs à la Formule 1, c'est Kimi, mais tu sais, Kimi, il était capable de s'engager avec une équipe, même si c'est qu'il ne peut pas faire le podium, parce qu'il est capable de le faire parce qu'il aime ça. Il cherche pas des voitures performantes, il cherche pas de l'argent, juste parce que lui, ça va bien, il veut continuer à rouler et ça marche. Mais c'est pas Fernando, Fernando, il veut juste gagner.
Ouais, c'est clair. Mais moi aussi, j'y vais avec Fission parce que c'est ça, comme tu disais, il y a plusieurs écuries. McLaren probablement voudra pas le réembaucher parce qu'ils ont un bon duo de pilotes. Je pense que l'opinion générale dans le paddock est unanime. Fernando est un très bon pilote, mais c'est quelqu'un qui peut avoir une qui peut être très toxique quand les choses vont mal. Donc, admettons que, par exemple, je prends l'exemple, chez Haas, tout va bien, on décide d'embaucher Alonso, on a l'argent pour. Tu sais, il y a des projets très intéressants et tout, mais au moment où ça va mal, il va y avoir un méchant gros clash entre Alonso et Gunther Steiner. Je prends l'exemple le plus facile parce que on sait tous comment Steiner est, mais ça va refléter un peu ce qui se disait lorsqu'il était chez Ferrari et avec McLaren aussi. Quand ça va mal, il va vraiment se mettre en colère, il va sortir des déclarations choc. Donc, et en plus, bon, tu dis, il a 40 ans, certes, mais je pense qu'il a encore le potentiel, mais je vois pas une écurie avec probablement de jeunes pilotes qui poussent en Formule 2, signer un pilote, bon, qui a encore la gloire. Je vois mal une écurie signer Fernando Alonso à 40 ans et snobber un jeune pilote très prometteur, comme par exemple Robert Schwartzman ou bien Mick Schumacher à la limite, être snobé. Donc, moi, je vois mal Fernando Alonso revenir en Formule 1. Il peut dire oui, bon, moi, je veux revenir en Formule 1 et tout, mais qui voudra dire oui?
Mais non, c'est ça, mais des fois, je vais chicaner avec, il est déjà en Twitter parce qu'il dit,
Oui.
mais
Ah, oui.
oui. Mais oui, parce qu'elle dit oui, mais j'y pense, mais peut-être ça m'attend. Mais non, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il dit, il dit une chose et après il dit une autre. Et après. Mais c'est juste maintenir l'opinion publique. On parle de lui tout le temps, même si il juste fait la bicyclette maintenant, mais on parle. On parle de Fernando. Ça c'est bien pour lui, c'est sûr. Côté marketing, c'est parfait. On parle toujours de lui. Mais. Je ne le vois pas en Formule 1, pour tout ce que tu as dit, pour tout ce que j'ai dit, il y a pas place. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, ce n'est pas pour ça. C'est parce que aussi, il y a aussi la question marketing. Mando et McLaren, ils travaillent très bien. Après qu'il est parti, il y a pas les camarades dessous. Personne regarde qu'est-ce qu'ils font. Et ça marche, il y a la paix, il y a la tranquillité. Tout le monde travaille bien. L'année passée, ils ont démontré que même avec les moteurs Renault, ça va plus mieux que l'équipe Renault. Mais ça aussi, il y a une partie de tranquillité. Il n'y a pas personne qui dit quoi faire, qui parle toujours au milieu, qui fait des critiques. Et ça c'est quelque chose que dans une équipe, il vaut beaucoup.
Voilà.
Retrouver la paix.
Voilà exactement en plein dans le mille. Donc, je pense qu'on est vraiment d'accord. Il n'est pas question qu'on voit Fernando Alonso en 2021 en Formule 1. Même si on l'aime bien, Nando, là, c'est un très bon pilote. Mais non, moi, c'est. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose, là.
So,
Alors.
il va essayer la IT 500 et c'est ça. Il s'engage. On va le suivre, mais d'autre côté que la Formule 1.
Exactement. Point numéro 9. Un des deux pilotes Alfa Romeo sera de retour avec l'écurie en 2021. et je n'ai pas spécifié lequel. Voici pourquoi. Parce que tout d'abord, d'un côté, il y a Antonio Giovinazzi qui revient, a vu son contrat être prolongé pour une autre saison. Mais apparemment, il aurait même pu ne pas revenir en 2020 à cause de son accident lors du Grand Prix de Belgique, alors qu'il était dans les points et il a envoyé sa voiture dans le mur. D'un autre côté, il y a Kimi Raikkonen qui finit sa deuxième et dernière année de contrat avec l'écurie suisse. Alors, je me dis, est-ce qu'il va avoir un des deux pilotes qui va revenir? Réalité ou fiction?
Oui, réalité, mais ça ne veut pas dire que c'est Giovinazzi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Mick Schumacher. C'est sûr que si ça marche cette année à Formula F2, la porte d'entrée dans la Formula 1, ça devrait être Alfa Romeo. C'est l'équipe junior et Ferrari a le droit à un chase là-dedans. Maintenant, c'est Giovinazzi qui l'a. Mais peut-être l'année prochaine, ça va être Mick Schumacher. Beaucoup, très probablement. Et Kimi, quand même, il donne beaucoup à l'équipe. Tout le monde l'aime, lui, même s'il ne parle pas, s'il n'aime pas les journalistes. Et ça marche bien, c'est le vieux Kimi, on l'aime toujours. Et encore, il se bat encore dans la course, même si c'est le plus vieux. Et même que Hamilton a dit que s'il s'en va, il va le payer pour qu'il revienne parce qu'il ne veut pas être le plus vieux. Mais Kimi, je pense qu'il reste. Et ça serait beau à voir aussi. Hein? On a vu. Michael et Kimi, ça serait beau voir Kimi, le fils de Michael, jouer ensemble.
Oh oui, hey, imagine un des plus jeunes, le doyen un des plus jeunes dans la même écurie. Hey, ce serait fou.
C'est très plausible.
Moi, j'y vais avec réalité, pas nécessairement encore là, sans dire que si c'est Kimi ou Giovinazzi, pardon. Parce que moi, je vois Giovinazzi, je pense qu'il a appris de ses leçons. C'est vrai que c'était sa première saison complète en Formule 1. Il a appris, mais en même temps, l'Alfa Romeo a eu des chutes de performance au cours de la saison, ce qui n'a pas aidé Giovinazzi. C'est sûr, là, j'ai parlé du Grand Prix de Belgique où il a cru que peut-être que c'était terminé avec Alfa Romeo pour 2020. Mais pour ce qui est de Kimi, est-ce qu'il a encore la motivation? Probablement, parce que peut-être si tu as vu Drive to Survive, il a dit qu'il fait ça comme une passion. Donc, est-ce qu'il va en avoir assez après 2020? On ne le sait pas. Et là, comme tu l'as dit, il y a Mick Schumacher qui arrive. Enfin, tout va dépendre de sa saison en Formule 2. Mais il a déjà les points requis pour... il a déjà la super licence pour aller en Formule 1. Il y a Robert Schwarzman aussi, qui est un membre de l'Académie Ferrari aussi, qui a gagné le championnat de Formule 3 aussi, qui pourrait être un bon potentiel, tout dépendamment de comment la saison de Formule 2 va se disputer. Mais moi, je vois au moins un des pilotes arriver, rester avec Alfa Romeo en 2021. Qui? On ne le sait pas.
Oui, on ne sait pas, c'est très probable. Oui, c'est vrai, mais on ne sait pas c'est qui. C'est juste que Giovinazzi, il faut qu'il démonte des performances, parce que de toute façon, c'est la plus facile à changer. Mm-hmm. Parce que c'est la scuderia Ferrari qui prend la décision.
C'est vrai, ça aussi il faut le préciser parce que Giovinazzi est un pilote, est un membre Ferrari aussi. Il est le troisième pilote de la Scuderia. Donc,
Oui, et qu'en fait, il était renvoyé.
c'est vrai.
Il
Donc,
était appelé après à rescousse parce qu'il manquait de pilote, en fait, parce que Leclerc il était passé à Ferrari. Il lui manquait quelqu'un pour assurer la chaise. Mais c'est ça.
C'est ça. Donc, Giovinazzi est un pilote Ferrari. Donc, il y a le volant, on va dire, Sauber slash Alfa Romeo qui appartient à Raikkonen. Puis, il y a le volant Ferrari. Il y a le côté Ferrari qui appartient à Antonio Giovinazzi. Donc, ça va être très intéressant pour 2021 de voir comment ça va s'arranger, tout dépendamment de la saison 2020. Point numéro 10. Après 5 courses, Lando Norris marquera plus de points que Carlos Sainz. Parce que l'année dernière, Sainz n'a pas marqué de points après 3 Grands Prix, surtout à cause de malchance. Donc Norris en a profité pour en marquer un peu plus. Mais je me dis en me basant l'année que pour cette année, Norris qui est sur sa deuxième saison va apprendre. Va utiliser tout ce qu'il a appris en 2020 pour connaître un bon meilleur début de saison que ce qu'il a connu l'année dernière et être au même niveau, voire même être un cran plus haut que Carlos Sainz. Alors, réalité ou fiction, Norris marquera plus de points que Carlos Sainz en 2020, dans les 5 premières courses de la saison.
En réalité. Pourquoi? Parce que l'année passée, Doris il était légion, il était nouveau, c'était son première fois en Formule 1. Il était quand même bon, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le même temps que Verstappen en Formule 1. Il y a l'expérience, il y a l'habitude, mais il y a aussi que il y a quelqu'un d'autre qui a donné pour le passer des meilleurs résultats que lui. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé hors de Red Bull, même s'il n'était pas content. Mais Norris aussi, c'est comme, pour McLaren, c'est comme Hamilton à l'époque. C'est le petit joujou, c'est lui qui a été créé. C'était les petits gens qui appartenaient à l'académie de McLaren. Si lui y a de bons résultats, tu sais qu'à McLaren, il n'y a pas de laisse-passer. Chaque pilote, il va faire sa course, comme le faisait Senna à l'époque, comme le faisait Hamilton et Alonso. Mais Norris, il est capable. Maintenant, lui, il connaît tous les circuits. Maintenant, il a fait une session, fait que maintenant, il est capable de mettre en pratique tout ce qu'il a appris l'année passée. Et oui, Carlos, il y a eu de mauvaises chances, mais Norris aussi, il y a eu de mauvaises chances comme Canada. Il a
Ouais.
explosé l'auto carrément, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais je pense que c'est vrai, il est capable. Mais Sainz, il faut qu'il fasse attention, mais c'est à son coéquipier. Parce que son contrat de Sainz, il finit cette année.
C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, moi je vais aller avec... non, en fait, non, moi je vais aller avec fiction. Parce que... Moi, je pense que Carlos Sainz, lui aussi, c'était sa première saison chez McLaren. Puis, moi, je pense que il y a l'expérience, certes, mais je pense que Sainz a vraiment montré comment travailler avec McLaren. Et je pense, bon, les 3 premières courses, comme je l'ai dit, c'était surtout de la malchance. Mais moi, je pense que Sainz va vraiment... a fait du très bon travail lors des essais, tout comme avec Norris d'ailleurs. Mais je pense que Sainz va avoir encore l'avantage. Je dis pas que Norris va avoir un mauvais début de saison, mais je pense que ça va être vraiment serré entre les deux. Je pense que Sainz
Mais
l'aurait.
Sainz, c'est une chose. Lui, il a l'avantage de toute façon, mais l'avantage de l'expérience. Mais ça le fait aussi commettre des erreurs, parce que lui, c'est un pilote qui dit, je vais de l'avance. On dit malchance, mais lui aussi, c'est un pilote qui dit, je me laisse pas faire. S'il faut accrocher Verstappen, je l'accroche. C'est là où lui, il perd des points. Quand il se met
Oui.
dans la tête qu'il ne se laisse pas faire, il ne donne pas. Mais s'il fait, Norris, il ne fait pas la même chose, il va profiter.
C'est vrai, c'est vrai. C'est un très, très bon point aussi, là, que tu amènes. Parce que c'est vrai que Sainz, justement, il a presque la même approche que Verstappen, là, vraiment,
Mais
jouer
oui,
du
la même
coude.
façon. Si je ne me trompe pas, dans la première partie de la session, il a accroché à Verstappen. Il a dit, non, ce n'est pas question qu'il le laisse passer, ce n'est pas ma faute. Mais oui, il a accroché l'année antérieure aussi. Il avait accroché une fois à Stroll aussi. Il
Oui.
a dit, pas question, même s'il était pénalisé et tout, il disait, non, mais pas question qu'il le laisse passer. C'est là où il doit travailler.
Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très vrai en plus. Donc, non, c'est ça. Parce que si dans des situations de course où on est. Où Sainz est roue contre roue avec un autre pilote, il va devoir prendre des. Il va devoir être très prudent parce que McLaren veut garder cette quatrième. Il veut garder la quatrième place au championnat des constructeurs. Et lui-même le dit que Racing Point et AlphaTauri sont des menaces aussi. Donc, si jamais Sainz fait ce que. Comme si il continue à garder cette même esprit de ne jamais lâcher et que ça va mal, ben là ça risque d'amputer McLaren et c'est là justement comme tu dis, il perd des points dans cette bataille avec Lando Norris.
Oui, c'est ça que je disais. Il peut pas de points juste avec des petits erreurs, des petites choses. C'est pas juste parce qu'il a l'expérience qu'il a l'avantage. Quand tu as l'expérience aussi, tu parles comme. Tu es pas confiante en toi. Et c'est là où on peut faire des erreurs aussi.
Exactement. Point numéro 11. La surprise de la saison sera Haas. Parce que l'année dernière, l'écurie a fini avec 28 points. Donc, elle a fini pour 28 points cette saison. Et ça a été très compliqué. Donc, est-ce qu'on s'attend à une meilleure saison où ils vont revenir parmi le sommet du peloton, réalité ou fiction?
Fiction.
Fiction?
Fiction, je ne sais pas, je ne le vois pas aller mieux que l'année passée parce que c'est comme. Je compare beaucoup à l'Scuderia Ferrari. S'il ne change pas de façon d'agir, ça ne change pas les résultats. Et c'est le même boss qui crie tout le temps, c'est le même pilote qui font des. Tout
Ouais.
ce qu'on sait tout le temps, fait que je vois pas comment ça va améliorer. Même si une bonne voiture, même si, comment ça s'appelle? Pas Grosjean.
Magnussen.
Oui, même si Magnussen, on sait que lui est capable de faire des choses quand il y a la bonne voiture, mais. C'est des choses qui se passent, des petites erreurs de l'équipe, des stratégies, des fois c'est le pilote, fait que c'est toujours quelque chose qui se passe que si tout se fait bien, il gagne des points, mais il y a toujours dans chaque course quelque chose qui ne marche pas.
C'est vrai.
Et c'est pour ça que je ne crois pas que ça va aller mieux si ils n'ont rien changé. Il n'y a pas. Tout est pareil, les mêmes pilotes, les mêmes stratégies, tout est pareil. Les mêmes approches, parce que si continuons avec les mêmes approches, les résultats, ça va être les mêmes. Grosjean, il va continuer à faire la même chose, ça fait ça depuis 2008.
Oui.
Et ça va continuer à faire la même chose. Ça va pas changer. La surprise, c'est plutôt Racing Point, je pense.
Ouais, et moi je suis d'accord. Fiction aussi, je vois mal. Je suis d'accord avec les points que tu amènes. Et moi je vois mal As revenir vraiment comme ils étaient en 2018. Moi je pense que il va avoir une progression certes, mais un peu moins que ce qu'on pourrait espérer. Point numéro 12. Williams verra ses deux pilotes se retrouver dans les points en 2020. Réalité ou fiction?
Non. Fiction, non. Fiction, mais la seule chose, c'est que ça se peut que Renault se retrouve derrière Williams, ça peut arriver, mais que Williams se retrouve dans les podiums, non. Non, non.
Moi aussi.
Non, non, il y a beaucoup d'autres qui sont en avant. Ferrari, Mercedes, Red Bull, ils font le monopole. Après, c'est Racing Point que pouvait essayer d'y aller, mais je veux loin William. Il y a beaucoup encore pour faire.
Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Moi, je vois mal voir Williams dans les... Ben, en fait, voir... Les deux pilotes se retrouvés dans les points en 2020. Il y a une amélioration, comme avec Haas, mais je pense que l'écurie va rester peut-être dernier au championnat.
C'est dernier ou sinon c'est Renault. Renault, c'est Renault, je ne sais pas. Je ne vois pas Renault même après la demi, la moitié de la saison, je vois Renault mal, mal.
Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et finalement, les deux derniers points. Le premier, Sébastien Vettel prolongera son contrat avec Ferrari pour 2021 parce que, oui, son contrat se termine à la fin de cette saison. Alors, réalité ou fiction?
Réalité. Oui, c'est possible. Réalité, parce que pourquoi? Parce qu'ils ont montré qu'ils ont dit déjà que sa priorité, hein, c'est la rénovation de Vettel. Ils ne regardent pas dehors. Ils ne regardent pas un autre pilote pour le remplacer maintenant. Et si Vettel est content avec son auto et ça va bien, je ne vois pas pourquoi ils vont pas le rénover.
Ouais, moi aussi, personnellement, je ne pense pas que Vettel va partir ailleurs. Je pense qu'il va rester chez Ferrari pour une autre saison, surtout pour préparer la nouvelle ère, donc réalité pour moi. Et finalement, toujours en termes de contrat, Lewis Hamilton annoncera qu'il reviendra avec Mercedes en 2021.
Ça, c'est. Je sais pas quoi dire. Réalité ou fiction, ça dépend. Non, mais ça peut être réalité si il gagne un City. Si se compare à Schumacher, oui, pour rester, parce qu'il va essayer de chercher un 8. Mais si c'est Ferrari qui gagne, peut-être Hamilton il va dire, ah, je pense que j'ai fait déjà, c'est ça. Quand il y a une équipe qui gagne, ça veut dire qu'il commence une nouvelle ère.
Oui, effectivement. Moi aussi, je pense que ce sera réalité. Je pense que Hamilton est vraiment bien avec Mercedes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs concernant des pourparlers qu'il a eu avec Ferrari pour venir avec l'écurie en 2021. Mais moi, personnellement, je pense qu'il est vraiment bien avec Mercedes. Je ne pense pas le voir ailleurs. En Formule 1 qu'avec Mercedes. Je pense qu'il va terminer sa carrière avec Mercedes. Quand, on ne sait pas, et je veux pas savoir quand exactement, mais je pense que il va finir sa carrière avec Mercedes. Donc, non. Moi, je pense vraiment que Vettel et Hamilton vont rester avec leur écurie respective.
Oui, ils vont rester. Ça là que oui, ça s'aligne pour ça.
Oh oui. Alors, c'est ce qui complète en fait le jeu de réalité et fiction. Anna Maria, je te remercie énormément d'avoir été là. Évidemment, tu seras là aussi pour d'autres podcasts. Donc, je suis vraiment content et en plus, on a eu une très très belle discussion aussi. On n'a pas été d'accord, puis c'est ça que j'aime aussi, c'est que, comme j'ai dit, il y a une énorme diversité d'opinions.
Oui, si on n'est pas d'accord, c'est ça la beauté de la chose, il y a des discussions.
Oh oui, puis ça a créé surtout avec l'histoire de coronavirus qu'on va évidemment suivre avec le bulletin info.
Oui, à suivre, le coronavirus est à suivre, la fille n'a pas pris de décision, ça a l'air qu'il parle, mais c'est sûr que c'est les autorités sanitaires australiennes à prendre la décision.
Exactement, donc évidemment, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook à facebook.com/bulletin F1, sur Twitter at le bulletin F1 en un seul mot et sur Instagram avec le même sobriquet at le bulletin F1 pour suivre toutes les actions. On a aussi notre site bulletin F1 avec le guide de F1 2020 qu'on finit de préparer, peu importe ce qui va se passer en Australie. Et aussi les textes, les chroniques, les bulletins de notes, les avant-courses, tout va se retrouver sur notre site Bulletin F1 et la balado-diffusion officielle, ainsi que le podcast Histoire de F1 se retrouve sur notre site bulletinf1.com. Et évidemment, le podcast va se retrouver sur toutes les plateformes de balado-diffusion préférées, donc Spotify, Google Play Music et Apple Podcast, entre autres. Anna Maria, un énorme merci d'avoir été là.
Et merci, merci à toi et merci à tout le monde qui va nous écouter.
Et évidemment, vous pouvez suivre le podcast espagnol de Anna Maria sur les réseaux sociaux. On va mettre le lien sur le site et évidemment sur nos réseaux sociaux pour tous ceux qui sont adeptes de balado-diffusion en espagnol. Alors, je m'appelle Abdou Sal. Merci d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1 et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!